Bonjour à tout le monde. Donc là, ça fait maintenant, il y a fait le 31 janvier, 10 ans, je suis en France. Je n'ai pas fêté ça, hein, cause du Covid. Mais un jour, je l'ai fêté. Et là, la semaine prochaine, ça va faire 10 ans que je suis marié avec ma femme. Puis que je suis arrivé 10 jours avant mon mariage en France. Donc mes beaux-parents étaient très contents de me connaître pendant 10 jours avant de donner sa fille. Mais c'était l'épreuve de la vie. Le Seigneur les a appris des choses, je pense. Et à moi aussi. Je suis content d'être là. Ça faisait un bon petit moment. Et puis avec la situation sanitaire qui a fait qu'on n'a pas eu notre retraite d'église l'année dernière. Donc ça fait plaisir de vous voir. Vous avez le bonjour aussi de l'église de Florac. Okay. Je sais qu'avec le masque déjà, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que des fois quand je parle, les gens comprennent encore moins parce que j'ai un masque. La deuxième, c'est que c'est une excuse maintenant pour mon mauvais français. J'ai dit un truc, c'était pas bien, et les gens disent, oh j'ai le masque. Mais non. Donc il faut utiliser aussi ces avantages hein, qu'ils nous donnent. On a une série de prédications qu'on fait à ce moment à Florac, dans Luc. Et jusqu'avant de... On est aujourd'hui dans le chapitre 7, et là j'apporte un message dans le chapitre 6, donc c'est une prédication que j'avais préparée à l'époque, et c'était assez sympa parce que à l'époque c'était le confinement, et on faisait des vidéos. Et puis pour éviter que les gens fassent des allers-retours pour l'enregistrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé deux messages d'un coup, j'ai enregistré deux messages d'affilée, vous voyez? Et puis j'avais enregistré un, qui a été diffusé. Et celui-là, finalement, dans cette semaine-là, le président a dit que nous, on pouvait ouvrir l'église. Donc, j'avais déjà prêché en vidéo. Du coup, j'ai reprêché ce passage en présentiel. Et jusqu'après, j'ai eu un événement qui s'est passé dans ma vie. J'ai parti au Brésil pendant deux fois l'année dernière. Une pour le décès d'un oncle à moi qui était très proche de moi. Et le deuxième, c'était le décès d'un pasteur, celui qui Dieu a utilisé pour m'amener à Christ. Donc je suis allé soutenir la famille et l'église locale de ce pasteur-là qui est mort aussi du Covid. Donc il s'est attrapé le Covid, décédé deux semaines après, l'église se retrouvait finalement sans pasteur. Et c'est le message que j'ai prêché à l'église, du coup, quand j'étais là-bas. Parce que c'est un message qu'on connaît tous, ce passage qui parle de la tempête, qui parle de la construction, de bâtir notre foi sur les paroles de Jésus. Et puis l'épreuve de la tempête, si la maison tombe, si la maison reste debout, tout dépend sur quoi on a bâti notre foi. Et je trouvais que c'était à propos pour le moment que l'Église vivait et pour le moment que je vivais aussi. Nous sommes en train de passer par beaucoup de difficultés dans notre Église à Florac. On vit un monde d'épreuves où on a perdu des gens de l'église et des gens de l'église ont perdu des proches aussi, donc un moment de deuil. Et il y a quelques semaines de ça, dans l'évangile de Luc, c'est un découpage qu'on fait qui est fait 6 mois en avance, à peu près comme ça. Vous voyez, on choisit quels ils vont prêcher, on fait le découpage et on donne à chacun qui va prêcher ce passage-là. Il y a quelques semaines de ça, on a prêché l'enterrement d'un jeune homme, le fils d'une veuve. Je pense que vous connaissez cette histoire. Jésus, il part d'une ville et il croise le cortège. À ce moment-là, il va ressusciter cet enfant-là. Et puis, dans cette semaine même, il y avait deux personnes de l'église qui avaient perdu. Les deux ont perdu leur papa. Et j'étais assez touché par ce message. Je venais de rentrer aussi du Brésil avec le décès de mon ami pasteur. Et comment Dieu avait guidé les choses, et c'est pour ça que nous croyons que même quand nous travaillons le découpage de la parole de Dieu, ce que nous allons prêcher dans quelques mois, si le Seigneur nous permet, déjà là, l'Esprit de Dieu est en train de guider déjà les choses. Et ce message, c'était un message qui a été très touchant pour l'Église, surtout pour le fait que le Seigneur était au contrôle de toutes choses. Ça rejoint ce que disait aussi le frère, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses et il est au détail près. Rien n'échappe à sa volonté, rien n'échappe à son plan, à sa souveraineté. Donc, nous avons introduit comme ça c'est pas trop en lien avec mon passage. Je vous invite à lire Luc 6, du 46 à 49. Pas beaucoup de versets. Je vais prendre le temps de les développer dans un côté pratique pour notre vie aujourd'hui. Luc 6, de 46 à 49, qui nous dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt, et elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Ici, nous trouvons dans Luc, c'est vraiment, on arrive à la fin de ce fameux serment de la montagne, et donc, tout au long, Jésus a donné les normes du royaume de Dieu. Comment vivre selon le royaume de Dieu? Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a notre façon de vivre comme nous voulons vivre, et il y a ce que la Bible dit de comment il faut vivre. Et c'est vraiment des fois, malheureusement, c'est deux choses différentes. Nous avons l'impression qu'il faut vivre de telle manière, parce que la société vit de cette façon-là, parce que ma famille vit de cette façon-là, parce que j'ai été éduqué de cette façon-là. Et quand nous arrivons devant le serment de Jésus sur la montagne, il dit: vous avez entendu ça, mais moi je vous le dis ça. Et ça change. Et c'est pour ça que moi je crois fortement, pour mettre un peu le contexte de ce que j'ai prêché aujourd'hui, je crois fortement que le serment de la montagne, la mise en pratique du serment de la montagne, malgré que plusieurs personnes pensent que c'est simplement éthique, elle est donnée aux enfants de Dieu. Il faut être sauvé, il faut être né de nouveau, il faut être régénéré pour pouvoir mettre en place, pratiquer les exigences des normes du royaume. Parce que si nous sommes des enfants du royaume de Dieu, il faut être sauvé pour être des enfants du royaume de Dieu. Donc nous ne demandons pas à la société de vivre ces normes-là, ils ne pourront pas. Si vous trouvez déjà vous difficile d'aimer vos ennemis, vous imaginez demander ça à quelqu'un qui n'a pas Christ. Vous voyez? Donc c'est les normes du royaume. Jésus arrive à la fin, il dit ces paroles-là. Vous voyez, donc tout ce qui est dit, bâti sur le roc, sous ces paroles à lui, c'est tout ce qui a été dit déjà avant. Je vous invite à arriver chez vous et à lire tout le chapitre qui parle du serment de la montagne. Ok? Ou aller plutôt dans le chapitre 5 à 7 de Matthieu, où c'est développé d'un coup, hein, toutes les normes. C'est ce que nous développons aujourd'hui avec le groupe de jeunes de notre église, le serment de la montagne. Ok? Donc, la première chose que nous voyons ici dans ce texte, c'est quoi? Pourquoi appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Il y a vraiment une contradiction, une incohérence d'appeler Jésus Seigneur si nous ne nous obéissons pas ce qu'il nous demande de faire. J'ai quelques enfants à la maison, et quand nous prions à la table, avant, ils disaient: qui vous priez? Et le premier qui lève la main, il commence déjà sa prière pour dire: c'est moi. Et il commence en disant: Seigneur! Et celui qui dit Seigneur, et il sait déjà qui, ah, c'est lui de prier. Vous voyez? Or, mes enfants, je pense que peut-être un, mais pas les autres, ne sont pas encore à Christ. Mais ils l'appellent déjà Seigneur. Pourquoi? Parce que ce vocabulaire de Seigneur, c'est devenu quelque chose de malheureusement banal dans notre église. On chante, on l'appelle comme ça, sauf qu'on ne fait pas ce qu'il dit. Et Jésus est en train de dire: c'est pas la peine. C'est pas la peine. La façon comme nous nous adressons à Jésus, elle est importante. Jésus voit comment on parle, il voit s'il y a une cohérence ou pas. Jésus n'est pas là en train de jouer avec notre vie, en se disant: ah, tu m'as appelé Seigneur, mais je sais ce que tu as voulu dire par là, c'était autre chose en fait. C'est pas grave, je te comprends tout à fait. Jésus n'est pas en train de dire ça. À ce moment, il y a du monde qui se dit disciple de Jésus. Il y a du monde qui l'appelle Seigneur. Et on voit dans les évangiles, les gens disent: maître, mais Seigneur, il dit: pourquoi m'appelles-tu comme ça? Ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que Jésus n'était pas un maître comme les autres. ce que Jésus disait, c'est pas comme les autres maîtres qui étaient quelque chose, une instruction pour ta vie. Les paroles de Jésus ne sont pas simplement des instructions, ce sont des commandements. Et un commandement n'est pas là pour être négocié. C'est pour le vivre et point. Une fois que nous comprenons que Jésus, que la parole de Dieu, c'est un commandement pour notre vie, nous arrêtons de négocier avec notre comportement, ce que j'ai vécu dans le passé, ma situation actuelle, qui fait que j'ai le droit aujourd'hui de ne pas faire ce que la Bible demande. Ça, c'est un grand mensonge. Et malheureusement, la société nous amène à ça. Certains comportements sont excusés par certaines actions que nous avons vécues en tant que victimes ou pas. Et je comprends que certaines choses qui arrivent dans notre vie nous amènent à certaines souffrances ou certains comportements. Mais s'ils ne sont pas bibliques, nous devons arriver devant Dieu et de dire « Seigneur, j'ai péché par ce comportement-là ». On n'excuse pas le péché avec quelque chose d'autre. Quand nous péchons, nous devrions demander pardon. La conséquence du péché d'un chrétien, c'est la repentance. Ce qui suit, c'est toujours ça. J'ai péché, je demande pardon. Je n'arrive pas devant Dieu en disant je pouvais m'excuser, mais comme quand on demande pardon à un frère, des fois, on dit frère, je suis désolé, je t'ai mal parlé, mais parce que, en fait, tu sais pourquoi je t'ai mal parlé? Et des fois, nous voulons faire la même chose avec Dieu. Mais ce n'est pas la peine d'appeler Jésus Seigneur si on n'obéit pas. Un esclave ne pouvait pas dire à son maître, « Oui, ok, d'accord, tu me dis de faire ça, mais finalement, ce que compte, c'est ce que j'ai fait moi. Je suis libre de faire ce que je veux. » Donc, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas un serviteur fidèle. Nous sommes libérés du péché pour devenir serviteur de Dieu. Tout homme, comme dit l'autre, tout homme est esclave de quelque chose. Soit nous sommes esclaves de la justice de Dieu, soit nous sommes esclaves de nos membres, de nos péchés et de nous-mêmes. Mais il y avait sûrement des gens qui disaient déjà à Jésus, Seigneur, Seigneur, mais qui n'obéissaient pas ses paroles. Et Jésus nous amène à des illustrations, à mettre en illustration Jésus. Et je pense que l'illustration va parler directement au cœur des gens, il parle directement à notre cœur. Aujourd'hui, le verset 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, il les met en pratique. » Est-ce que vous arrivez à voir ici ces choses qui vont ensemble et nous ne pouvons pas les dissocier, je ne sais pas comment on dit ça. Comment ? Dissocié, voilà. Je sais que j'ai dit mal, hein, ce que j'ai dit, mais je ne sais pas comment bien dire. Je vous montrerai qui est semblable, cet homme-là. Il y a trois actions importantes ici. Qui est semblable, cet homme. Il vient à moi, il entend mes paroles, il les met en pratique. Vous voyez ces actions? On vient à Christ, on entend ce qu'il a à dire, et après on les met en pratique. Je me demande dans quelle étape nous sommes aujourd'hui. Si vous êtes là, donc vous êtes venu au moins. Après la question, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous écoutez les paroles de Christ? Et puis bien sûr, hein, je ne parle pas que du dimanche matin. Je parle de la vie de tous les jours. Déjà, est-ce que dans notre vie de tous les jours, du lundi au lundi, je viens à Christ pour entendre ses paroles? Est-ce que la lecture de la parole de Dieu, ça fait partie de mon quotidien? Parce que nous pouvons venir à l'église dimanche matin et entendre une heure d'enseignement, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, et de dire, waouh, c'est riche. Waouh, c'est incroyable, oui, c'est tellement bon ça. Et après, je passe une semaine sans entendre la parole de Dieu. En parlant de la méditation ou du culte personnel, on utilise ce terme dans notre milieu évangélique, avec les ados de notre église. On parlait de la nourriture. Parce que c'est des ados qui mangent. Hein. Je ne sais pas si vous... Les ados mangent. Pas plus que moi, mais ils mangent quand même. Et je disais, vous imaginez si on va au tacos, ou au Burger à Papa, ou à Burger King, etc. Et que je te dis, tu vas prendre aujourd'hui ce que tu allais manger pendant 7 jours. Tu vas mettre dans ton congélateur, tu vas le sortir tout le dimanche et tu mangeras tout d'un coup pendant 2 heures. Et après tu passes une semaine sans manger et chaque dimanche tu fais pareil. Alors elle saura comment ta santé. Déjà si tu vas arriver à tout avaler, toutes ces deglotises, hein, d'un coup. Non. Et c'est pour ça que des fois nous venons à l'église et c'est lourd les prédications, les huiliques, c'est tellement lent, c'est tellement ennuyant. Parce que bien sûr, hein, tu n'as pas mangé ça toute ta semaine. Tu manges un petit morceau, ça te fait mal au ventre. Mais le problème, ce n'est pas juste de ne pas manger, c'est de manger des choses qui sont mauvaises. Parce que je ne prends pas le temps d'aller écouter Jésus dans ma semaine. Je vais écouter quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la réalité de chacun de nous. Mais cet homme-là, qui est le sage, ici, il vient à Jésus. Il y avait une foule qui venait à Jésus. Il entend les paroles de Jésus, il l'écoute. Je pense que c'est ce que vous faites ça ici maintenant et je vous encourage à le faire tous les jours de votre vie. Il y a cette dernière chose ici, c'est mettre en pratique. Et des fois c'est là que ça a bloqué un peu. Parce qu'on vient, on entend, et puis la mise en pratique elle peut être plus ou moins difficile, ça dépend de ce qu'on demande. Autant que papa, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que je demande à mes enfants, ils le feront, mais sans souci. Une fois par semaine, par exemple, le mercredi, c'est le jour du cinéma et du barbecue à la maison. Je dévoile ma vie de famille ici, j'espère que ça ne va pas vous choquer. Donc, on n'a pas la télé à la maison, et puis une fois par semaine, on choisit quelque chose à regarder ensemble. Voilà, donc on se met une petite tablette, on s'assoit et puis on regarde avec les enfants. Le mercredi matin, quand j'ai dit mes enfants, allez vous asseoir sur le canapé, papa il arrive, et ils sont tous assis, main sur le genou, en attendant que papa arrive avec la tablette pour regarder le film. Il n'y a aucun, j'ai pas besoin de dire deux fois, même pas de parler plus fort, ils obéissent à la lettre. T'arrives sur le canapé, ils sont comme ça, ils attendent, les yeux sont comme ça, ils disent, regarde, papa on a obéi. Alors, tous les jours de la semaine, combien de fois, surtout le soir, je dois les dire, allez ranger la chambre avant de vous coucher, ranger ce salon, allez, mettez le pyjama, allez boire de l'eau, allez aux toilettes, mais les gars, j'ai déjà dit 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais papa va se fâcher, va se fâcher. Il y a pas, c'est pas la même obéissance. Sauf qu'est-ce qui est plus important pour eux? Le mercredi matin, sur le canapé avec un petit déjeuner, ou apprendre cette discipline de ranger, de faire les choses, de grandir. Parce que je ne veux pas que mes enfants, à 20 ans, arrivent dans une entreprise avec leur CV en disant qu'est-ce que vous faites du bien dans votre vie. Oh, et moi, je sais très bien m'asseoir sur le canapé et regarder des amis. Je fais ça pendant 20 ans, je suis très fort là-dedans. Quoi d'autre? C'est tout. C'est pas ça qui va les forger. Je pense qu'il y a des moments de loisir, hein. Il y a des choses dans la parole de Dieu que je trouve que c'est tellement plaisir de la mettre en pratique. Hein? Et d'autres choses que des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Quand on doit pardonner les uns les autres réciproquement, aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Ah, on a parlé des offrandes, des fois, c'est quelque chose qui bloque aussi. Hein? Dans mon pays, on dit, tu veux savoir si la personne est convertie, touche son portefeuille. Ou mets-le à jouer au foot. C'est deux choses qu'on peut voir si la personne a vraiment compris l'évangile. C'est une blague. Hein? Mais c'est vrai que beaucoup de personnes perdent leur témoignage dans le terrain de foot avant que le match soit fini. Et que beaucoup de personnes disent l'argent, je ne donne pas d'argent au pasteur. Et heureusement. C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et nous devons faire avec joie. Vous voyez que des fois, cette mise en pratique, elle a tout bloqué. Et là, j'ai donné un ou deux domaines, mais vous connaissez tous quel est le domaine où c'est pas simple de pratiquer la parole de Dieu. Mais en tout cas, la personne, l'homme sage, celui qui écoute et entend la parole de Dieu, c'est celui qui met en pratique aussi. On n'est pas là juste pour connaître quelque chose, Il faut dire que nous connaissons et vivons toute notre vie avec cette connaissance sans la mise en pratique. C'est pas ce qui nous enseigne la parole de Dieu. L'illustration du verset 48 nous dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc, qui est Christ, ses paroles. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Avez-vous déjà vécu des tempêtes? Ça veut dire que vous êtes chez vous, il y a une grosse tempête qui est dehors et ça fait peur. Moi j'ai vécu ça déjà quand j'étais petit et puis on avait de l'eau qui coulait partout dans la maison et j'avais ma grand-mère qui disait « T'inquiète pas, la maison ne va pas tomber. » On va parler de ça tout à l'heure, mais on a cette impression que la maison tombe. Mais la personne qui connaît vraiment la maison, qui a plus de maturité, nous dira, t'inquiète pas. Ça fait peur, mais ça ne tombera pas. Parce que la maison était bien bâtie. Un homme qui a creusé et creusé profondément, apparemment, dans ces eaux-là, cet endroit-là, quand les gens construisaient des maisons, certaines maisons, il fallait creuser 10 cm pour trouver vraiment le bon fondement. Et d'autres, à peu près 10 mètres. Donc, imaginez-vous creuser dans le temps. À l'époque, on n'avait pas toutes ces machines que nous avons aujourd'hui, toutes ces groupes que nous avons partout dans Bordeaux. Tu veux prendre des photos dans Bordeaux, tu ne peux pas. Il n'y a plus de monuments, il y a que des constructions. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, il fallait creuser. C'était un travail qui était très, très difficile. Et surtout, combien de temps tu passes à creuser? Une dizaine de mètres pour trouver vraiment l'endroit pour commencer à bâtir ta maison. Des fois, on passe plus de temps à creuser qu'après à mettre des briques. On a l'impression, quand on creuse, que les choses n'avancent pas, parce qu'on ne voit pas la chambre qui est déjà faite avec le carrelage. On est dans le dur, hein, c'est ce qu'on dit. On est dans le dur. Pourtant, bâtir notre foi, c'est du travail. Travaillez votre salut, c'est ce que dit la parole de Dieu dans Philippiens 2. On ne travaille pas pour être sauvé, mais nous travaillons le salut que nous avons. La mise en pratique de la parole de Dieu peut être semblable à ça, à creuser et à creuser et à creuser. Il y aura des moments plus durs, des moments difficiles. Je pense que le frère, c'était Jacques 1, je pense que verset 3, et ce qui suit. Réjouissez-vous. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Creuser et creuser profondément nous décrit très très bien la parole de Dieu, qui c'est une parole qui est profonde et pas superficielle. Plus je creuse, plus on trouve un endroit stable, plus notre maison sera en sécurité. Plus notre foi va être solide. Ici, c'est une question de bâtir une maison solide. De bâtir une foi solide. Et on ne peut pas le faire sans la mise en pratique de la parole de Dieu. On ne peut pas le faire. Il pose le fondement sous le roc, qui est Christ. Et l'inondation vient, les tempêtes viennent, mais la maison ne bouge pas. Je rêve d'avoir une maison, par exemple. Mais vous savez ce genre de rêve où tu te lèves le matin, tu ouvres tes yeux, tu dis, waouh, ce matelas là il est plus confortable que celui de la nuit d'avant. Tu mets les pieds par terre, c'est de la mouquette, c'est chaud, c'est nickel. Tu ouvres la porte de ta chambre, il y a une cuisine merveilleuse et ta femme qui te fait le petit-déj et tu te dis « Wow, mais c'était pas ma cuisine hier soir. » Et la salle de bain, elle est magnifique. Et tu regardes ton salon, il est nickel. Et j'arrive dans mon bureau, il y a une grosse bibliothèque. Tous les livres que je n'ai pas encore, je l'ai maintenant. J'ai mon bureau avec l'ordinateur avec 2-3 écrans pour bien bosser mes messages. Et c'est magnifique. Et c'était fait de jour au lendemain. Bah ça c'est un rêve. Ça c'est un rêve. Nous pouvons arriver à une maison comme ça, mais il faut travailler pour cela. Il faut la construire. Et nous croyons que la foi en Christ, des fois, que notre vie chrétienne, c'est que du jour au lendemain, tout est parfait, tout est nickel. Sans que j'aie à travailler, sans que j'aie à mettre en pratique quoi que ce soit. Des fois, nous voyons des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, ils ont 60 ans, 70 ans, et ils ont une vie solide avec le Seigneur, et c'est des gens, quand on regarde la parole de Dieu, qui dit, regardez, la fin de leur vie, imitez leur foi, tu dis, je vous imiter cette personne-là. Et on pense que cette personne, c'était ça, c'était un rêve. Et s'est couché, il s'est levé, c'était ce prédicateur solide, cette personne qui avait cette foi solide. On regarde les apôtres, on pense que c'est pareil, on oublie tout ce qu'on lit dans les évangiles et la fragilité qu'ils avaient. C'est des gens qui ont creusé profondément et qui ont mis en pratique la parole de Dieu et qui ont grandi dans la foi. Et malheureusement, c'est pour ça que des fois nous arrivons dans des églises et nous avons des chrétiens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans et c'est pas solide. Ils n'ont pas une foi solide parce qu'il n'y en a pas. Ils ne croisent pas, ils ne travaillent pas, ils ne pratiquent pas ce que la parole dit. Vous voyez, quand vous construisez une maison, je ne sais pas si vous avez déjà construit votre propre maison. Moi, j'admire énormément des gens qui font ça. La personne a travaillé toute la semaine, et le week-end, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive chez elle? Elle bosse. Parce qu'elle est en train de construire sa maison pour elle et pour sa famille. J'imagine cette personne dit, je vais construire cette maison, mais je vais travailler que 5 minutes par jour. Parce qu'il ne faut pas trop se fatiguer. Combien de temps cette personne va mettre pour avoir une maison solide? Et des fois, on met du temps à progresser dans notre foi parce que nous ne passons pas assez de temps à travailler et à bâtir notre foi, notre maison en Christ. Pourtant, on passe trop de temps à faire et à bâtir notre maison, notre vie, c'est d'autres choses. Je sais que cet exemple n'est pas bon. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir et disent « Moi, je suis capable de regarder une saison entière sur Netflix, mais quand je commence à lire la Bible, je m'endors déjà. Alors que devant un écran, je ne m'endors pas. » Je comprends le fait qu'il y a un combat spirituel d'un côté et que de l'autre, il n'y en a pas. Mais la question, ce n'est pas pourquoi je m'endors quand je lis et je ne m'endors pas quand je regarde une série, mais pourquoi je regarde une saison entière d'un coup. D'où sort tout ce temps? Qui m'a donné tout ce temps? Si nous croyons que c'est Dieu qui nous donne le temps pour vivre, alors pourquoi on ne le met pas pour lui? Est-ce que tout le temps que le Seigneur nous a donné, c'est pour faire ça? Je ne suis pas contre regarder un film. Au contraire, je le fais. Mais ce n'est pas ça qui va faire de ma maison une maison solide. Vous voyez, si vous passez que 5 minutes avec Dieu par jour, à bâtir votre foi et votre maison, combien de temps ça va mettre pour que vous soyez des chrétiens solides? Et c'est pour ça que d'autres ils viennent d'arriver, ça fait un an qu'il est converti, tu dis, waouh, la personne est là, quoi. Et on dit, non, il y a un don, il y a ça et ça et ça, sûrement. Mais si on va creuser un peu plus, on voit que le frère, il est zélé pour le Seigneur. Il vit pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et oui, il progresse, oui, sa maison sera prête avant la vôtre. Cet homme-là, il creuse et il bat une maison. Et cette maison-là ne tombera pas pendant les tempêtes. Ce que je vois ici, ce n'est pas simplement le travail. On a le travail, nous avons le fruit du travail parce que la maison est prête. Mais nous avons aussi le test, l'épreuve de la qualité du travail. Personne aime passer par des épreuves et par des choses difficiles, par des tempêtes. Ça fait peur. Mais sachez une chose, c'est les tempêtes et les épreuves de la vie qui attestent que votre maison qui est bâtie sur Christ est solide. C'est ça qui donne la preuve que Dieu, il est là avec toi. Et qui, de maison, reste debout. Si je vais à Orpi aujourd'hui ou à une autre agence, Et je veux acheter cette maison et que la personne me dit, ouais, cette maison-là, Nino, franchement, elle est nickel. Elle est grande. Il y a de la place, de l'espace. Tu fais ton potager derrière, tac, tac, tac. Tout comme tu aimerais, Morée, puis pas cher. Pas cher, pas cher, pas cher, Nino. Par contre, il faut pas qu'il y ait de la pluie. S'il pleut, il y a une tempête, ça va tomber. Mais t'inquiète pas, il pleut jamais ici. Je suis insensé d'acheter cette maison. Parce qu'on est à Bordeaux, il pleut à Bordeaux. Par contre, la personne me dit, cette maison-là, elle a passé par tant de tempêtes, elle n'a jamais tombé. Il y a la maison qui est collée à la mienne, là où j'habite à Lormont, et un jour, il y avait un papy, mamie qui passait devant mon portail, il s'arrête, parce que les enfants étaient là, et mes enfants parlent avec tout le monde qui passe devant la maison. Et oui, je pense 90 ans à peu près le couple, ils me disent, vous savez, comment c'était ici avant, parce qu'ils sont à Lormont depuis la Genèse. Tu vois? Ils étaient là depuis le commencement, ils sont à Lormont. Ils disent, vous savez, pendant la guerre, ils sont arrivés, ils ont bombardé ici parce qu'il y a beaucoup d'usines, donc ça faisait exploser tout. Toutes les maisons ici ont tombé. Sauf celle-là. Une était à côté de la maison voisine. Ils disent, cette maison-là n'a pas tombé. Ils disent, wow, soit c'est de la chance. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Cette maison, elle est solide. Si vous avez passé déjà par des épreuves, ou si vous êtes en train de passer par des épreuves et des tempêtes dans votre vie, si vous êtes en train de construire votre vie en Christ et dans la pratique de la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que Paul dira, ne vous inquiétez de rien. Parce que c'est solide. L'impression que nous avons, c'est que tout va tomber sur notre tête. Mais si on revient encore à la parole de Dieu, on sait que non. Il est au contrôle de toutes choses. Pour finir avec ce verset, puisque l'autre, c'est la conclusion, c'est selon le contraire. Pourquoi que Jésus nous demande de pratiquer sa parole? Pourquoi qu'il nous demande de construire notre vie fondé sur ce roc-là. Le frère a parlé de la préscience de Dieu, de la connaissance infinie de Dieu, de son intelligence. Dieu connaît tous les événements et sait par quoi nous allons passer. Et Jésus sait très bien que si vous n'êtes pas fondé sur sa parole, vous n'allez pas pouvoir résister aux épreuves qui nous est déjà réservées. Comme un père qui dit à son enfant, brosse-toi les dents tous les jours. Donc, Jésus sait sur quoi, quelle épreuve nous allons retrouver dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il nous dira de pratiquer sa parole pour pouvoir les surmonter. Vous voyez, comme j'ai dit, autant que parents, on sait pourquoi en nous disant à nos enfants, brossez-vous les dents tous les jours. Parce que nous savons que s'ils ne le font pas, ça ne va pas tarder, ils auront plus des dents dans la bouche. La seule façon de surmonter les épreuves de la vie, les tempêtes qui vont arriver, et rester debout, c'est de rester accroché à la parole de Dieu, à la pratique de la parole de Dieu. Faites ça, et peu importe le moment et les épreuves que vous allez vivre, votre maison restera debout. Passons au verset 49. Notre conclusion. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sous la terre. Qu'est-ce qui manque ici? Creuser et creuser profondément. Un a bâti sur le roc, sur Christ, et l'autre sur la terre, sous la poussière. Sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison. Donc j'ai relu le verset et on va finir. C'est ma faute hein, si j'avais fini avant. C'est un signe. Hein. Mais celui qui entend ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ce qui est triste ici, pour faire court, c'est que cette personne a quand même construit quelque chose. Elle a quand même mis son temps sur quelque chose qui finalement n'existe plus. Et c'est pour ça que quand on renverse ces choses-là, on se dit, ça ne vaut pas la peine de construire ma vie, de bâtir ma vie, de vivre d'une autre façon qui ne soit pas l'obéissance de la parole de Dieu. Ça ne vaut pas la peine parce qu'on vit pour rien. Parce qu'à la fin, il n'y a rien qui reste. Même si le monde nous dit au contraire, même si on a des illusions, etc. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont là pour nous dire, voilà comment il faut vivre. C'est éphémère. Et ce n'est pas éternel. Rappelez-vous ce qui dit la parole de Dieu. Hein. Tout va rester pierre sur pierre. Mais la parole de Dieu, elle permanece. Elle restera jusqu'à la fin. Jésus est le seul qui peut nous dire « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ma femme ne peut pas me dire ça. C'est éternel. C'est éternel. Et cet homme-là, il a construit au même endroit parce que nous avons l'impression que c'est la même tempête. Et malheureusement, des fois, nous sommes dans la même église avec des frères qui construisent leur vie en Christ et qui passent par des épreuves et restent debout. Et des frères qui sont là mais qui ont choisi de construire leur vie différemment. Il y a une seule façon de bâtir notre vie, de construire notre vie pour que ça soit solide et que ça résiste aux tempêtes et aux épreuves de la vie. C'est la pratique de la parole. L'obéissance à Christ. L'obéissance radicale. On n'aime pas ce mot. Hein. Vous avez lu le livre de John Stott, le disciple radical. On n'aime pas ce mot parce qu'on aime bien être flexible. Mais je n'ai pas l'impression qu'un disciple de Christ vit dans la flexibilité de « aujourd'hui j'obéis, demain non, tout dépend de la saison ». La vie avec Christ, ce n'est pas comme les cèpes qu'on va ramasser pendant l'été et après c'est fini. On vit pour lui jour après jour, fidèlement, en construisant notre vie. Je ne sais pas dans quel état vous êtes et je ne connais pas non plus quelle épreuve vous avez passé ou vous êtes en train de passer maintenant. Mais le conseil qu'on donne, c'est de rester fidèle à la parole de Christ. Et on avait parlé de l'assurance tout à l'heure. C'est l'assurance que nous avons que les épreuves ne peuvent pas nous détruire. Nous ne pourrons pas. Parce que ni la mort pourra nous vaincre, parce que Jésus il a vaincu la mort. Et comme a dit le frère, nous sommes plus que vainqueurs en Christ aujourd'hui. Nous avons déjà ça. J'aime bien l'image de jouer un match en sachant que j'ai déjà gagné. Mais on le joue quand même, en ayant déjà la victoire. Peu importe si le match devient difficile, je sais déjà le score à la fin. C'est la victoire. Et les épreuves de la vie, c'est pareil. Peu importe la puissance de l'épreuve, je sais déjà la fin. C'est que ma maison reste debout, parce que je la construis en Christ. Je vous encourage à continuer à mettre en pratique la parole de Jésus et à traverser vos épreuves, autant qu'église, autant qu'individu, toujours en obéissance à la parole et en ayant l'assurance que notre maison ne tombera jamais. Amen.